Alors aujourd'hui, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est prendre sous un tout autre angle le passage. Alors bon, je m'aperçois. Bon, on va voir. Hein. On va essayer de faire à peu près ce que je vais vous dire. Prendre sous un autre angle le passage du paradigme de la guerre à celui du gouvernement, le prendre dans le champ de l'anthropologie. Alors la séance devrait se découper comme ça. D'abord examiner ce passage-là à travers l'exemple de deux textes, hein, un de Clastres et un de Descola. Et dans une deuxième partie, j'aimerais commencer à parler de façon plus spécifique de la question de l'analogie, envisagée d'un point de vue méthodologique. Vous voyez ce qu'on disait au départ, à savoir qu'il fallait tenir lié autant que possible méthode et analyse, disons. Vous voyez, ça ne marche pas complètement pour le moment, ça reste un peu juxtaposé. Mais précisément, comme je vous disais la dernière fois, les quatre premières séances vont nous servir à installer un champ de travail. Et l'idée, c'est que ça se fonde, justement, ces éléments de méthode et ces éléments d'analyse, qu'ils puissent se fondre ensuite. Ceci dit, dans la première partie, je vais quand même beaucoup parler de l'analogie et plus exactement de ce que Descola appelle analogisme. On verra ce que ça veut dire donc tout à l'heure. Donc il sera beaucoup question de l'analogie quand même dans ma première partie là. C'est quand même autour de cette notion que va tourner l'ensemble de l'intervention d'aujourd'hui. Alors, quand je dis dans le champ de l'anthropologie, en fait, je pense pas à l'anthropologie envisagée comme domaine d'études académiques, mais plutôt à la question de l'usage politique de l'anthropologie. C'est pour ça que je prends ces deux textes, donc un, donc bon, vous connaissez sans doute, enfin certains, je sais, connaissent bien. Bon, il y a Par de la nature et culture de Descola, et il y a Archéologie de la violence, le petit texte de Clastres. Donc, des textes au statut très différent, petits textes très concis, très provocateurs, qui datent de 77. Puis, au contraire, Descola, un livre qui se veut, et qui est, hein, qui me semble fondateur, avec une visée d'exhaustivité, bon, qui s'appelle donc Par de la nature et culture. Deux textes qui illustrent un certain usage de l'anthropologie en tant que tel. Et par usage, il ne faut pas entendre l'exposé des convictions politiques des auteurs, mais plutôt la question: qu'est-ce que l'anthropologie peut nous dire de la politique? Qu'est-ce qu'elle nous donne comme modèle ou comme contre-modèle pour la politique? Et qu'est-ce qu'elle nous apprend incidemment des préjugés contenus dans notre notion de politique? Alors, on dira justement pour revenir à notre point de départ, que du point de vue de l'usage politique de l'anthropologie, de Clastres à Descola, on passe justement du paradigme de la guerre à celui du gouvernement. Et là encore, guerre et gouvernement ne font pas du tout paradigme de la même manière. Et une manière dont c'est très clair, vous allez voir, enfin vous souvenez peut-être. Mais bon, et une manière qui est beaucoup moins claire à mon avis. Alors, d'abord donc, Clastres, je permets de résumer juste, bon, enfin de résumer un peu, hein, je citerai deux ou trois passages de Archéologie de la violence, la guerre dans les sociétés primitives. Donc, ce qui est cherché par Descola, c'est précisément, on pourrait dire, un modèle d'anti-gouvernement. Un modèle en tant que contre-champ de l'État, et horizon pour une politique qui est soustraite à l'État. Alors Clastres ouvre son étude en notant l'absence de référence à la guerre dans l'ethnographie contemporaine. Bon, ça n'a pas dû. Enfin, je ne sais pas finalement si ça a beaucoup changé depuis, 77 donc. Par contraste, notamment avec ce qui avait été relevé pendant des siècles par les explorateurs de ce qu'on appelait le Nouveau Monde. Et qui remarquaient, bon, c'était un fait frappant pour eux, l'omniprésence de la guerre entre les communautés qu'ils disaient primitives. Cette impasse sur la guerre serait due à deux choses. D'abord au fait que ces sociétés primitives, c'est aussi l'expression utilisée par Clastres, en entrant en contact avec les Occidentaux, elles ont effectivement perdu leurs caractères initiaux finalement et se sont pacifiées, se sont réellement pacifiées. Ou bien certaines d'entre elles ont été décimées évidemment. Mais ce qui joue également, c'est la fausseté des principes mis en œuvre dans les diverses approches ethnologiques. Et alors, il distingue trois types d'approches. Bon, je résume très très vite ces trois types d'approches. Une naturaliste, une économiste et une échangiste. Alors, pour l'approche naturaliste, c'est un type de discours, disons, qui rabat les sociétés humaines sur les comportements de l'espèce, c'est-à-dire sur les comportements des humains en tant que vivants. Il y a ici, nous dit Clastres, il vise notamment le roi Gouran, une confusion entre zoologie et sociologie. Ça, c'est la critique qu'il fait à le roi Gouran. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le présupposé de Clastres ici, à savoir celui de l'opposition nature-culture, si vous voulez, c'est exactement celui que va contester... va contester Descola, ça va être même l'angle qu'il va prendre, quoi, la contestation de ce partage même. Mais bon, pour en revenir à Clastres, donc, il cite le roi Gouran, il dit finalement, pour le roi Gouran, les hommes se font la guerre parce que ce sont des chasseurs, la guerre est une forme particulière de mobilisation du comportement du chasseur. Or, il y a selon Clastres une agressivité tout à fait spécifique de la violence guerrière qui fait que l'on ne peut pas la rabattre sur la disposition du chasseur ou sur les comportements d'une espèce vouée à chasser pour se nourrir. La guerre a une fonction proprement sociale, donc on va voir la guerre. Il critique aussi l'approche économiste, là il vise le marxisme. Pour l'anthropologie marxiste de l'époque, la guerre serait issue de l'incapacité à maîtriser le milieu naturel. De cette incapacité naîtrait l'épreuve de la rareté des ressources et de cette épreuve, la concurrence guerrière. Or, là, Clastres s'appuie sur Salins, il ne s'embarrasse pas beaucoup de... Enfin, c'est un texte très polémique, hein, ce n'est pas un texte démonstratif. Il s'appuie sur Marshall Salins, c'est son texte donc, dans lequel Salins montrait que il n'y a pas d'économie de la misère dans les sociétés primitives, qu'au contraire, ce qui caractérise ces sociétés, c'est une forme d'abondance, cache de pierre, âge d'abondance. L'économie sauvage est une économie de l'abondance, où tous les besoins sont satisfaits, et ce, grâce à un temps d'activité contraint relativement resserré. Et par là se trouverait démontré la fausseté du postulat marxiste, postulat qui veut que celui que rejette Clastres, qui veut que bon qu'il y ait une misère qui soit cause de la guerre et qui va de pair aussi avec cet autre versant du postulat marxiste qui est celui d'une tendance à se développer qui serait inhérente aux forces productives. Ce postulat-là passe complètement à côté de la logique des sociétés primitives. Ne sont pas du tout des sociétés fondées sur la production. Enfin, le point de vue échangiste, et ici, Clastres polémique avec le structuralisme de Lévi-Strauss. Pour Lévi-Strauss, la guerre n'est pas un phénomène spécifique, elle est un élément du réseau d'interaction, du réseau d'échange que forment les sociétés. Et plus précisément, c'est un élément négatif. C'est le signe d'une défaillance. Donc il cite Lévi-Strauss qui, dans les structures élémentaires de la parenté, dit « Les échanges sont des guerres pacifiquement résolues, les guerres sont issues de transactions malheureuses. » La guerre, dès lors, ne peut être pensée que comme le négatif de l'échange, elle n'a pas de positivité propre. Or, il s'agit bien de penser cette positivité à tel point que Clastres va en faire finalement le modèle qui fonctionne comme raison cachée le moteur caché des sociétés primitives. Pas caché au sens où ça ne se verrait pas, puisque, finalement, puisque justement ça se voit qu'il y a la guerre, qu'il y a une omniprésence de la guerre, mais au sens où elle est, où elle constitue, où elle constituerait d'après lui, l'essence même des sociétés primitives, ce qui les unit par-delà leurs différences. Et par différence surtout avec nos sociétés occidentales, disons. Et c'est en ce sens qu'elle ferait paradigme pour la politique. Alors, où réside la positivité de la guerre ? Elle réside avant tout dans le fait qu'elle va être le moyen de maintenir la dispersion des communautés. Elle va être le moyen de maintenir une dispersion. Si les sociétés primitives sont morcelées, dispersées, ce n'est pas à cause de la misère de leurs conditions, ce n'est pas parce qu'elles ne parviennent pas à des échanges pacifiques, c'est parce qu'elles veulent leur propre dispersion. Alors, je vous dis un petit passage. Hein. L'extrême morcellement sous lequel se présente partout la société primitive serait la cause, a-t-on souvent écrit, de la fréquence de la guerre dans ce type de société. L'engendrement mécanique, décrit dans la séquence rareté des ressources, concurrence vitale, isolement des groupes, produirait comme effet général la guerre. Or, s'il y a bien une relation profonde entre la multiplicité des unités sociopolitiques et la violence, on ne peut comprendre leur articulation qu'en renversant l'ordre habituel de leur présentation. Ce n'est pas la guerre qui est l'effet du morcellement, c'est le morcellement qui est l'effet de la guerre. Il n'en est pas seulement l'effet, mais le but. La guerre est à la fois la cause et le moyen, donc on est en même temps. La cause et le moyen d'un effet et d'une fin recherchée, le morcellement de la société primitive. En son être, la société primitive veut la dispersion. C'est elle qui veut. Ce vouloir de la fragmentation appartient à l'être social primitif qui s'institue comme tel dans et par la réalisation de cette volonté sociologique. En d'autres termes, la guerre primitive est le moyen d'une fin politique. Donc on peut dire que la société primitive, c'est finalement la multiplicité des communautés. Des communautés autonomes. Mais si les sociétés primitives sont dispersées, c'est parce que chaque communauté primitive, c'est lui hein, qui utilise ce terme, forme par elle-même un tout indivisé, chaque communauté autonome. La communauté primitive, nous dit Clastres, est à la fois totalité et unité. Elle est homogène, elle refuse la division interne. En tant qu'elle est une et indivise, dans l'image qu'en donne Clastres, la communauté serait alors exposée au risque de rester fermée sur elle-même. Précisément s'il n'y avait pas la guerre. En ce sens, on peut dire que la guerre est le moyen par lequel une communauté entretient une relation constitutive avec l'altérité. On dirait que l'échange pourrait permettre aussi cette relation à l'altérité, mais justement dans l'analyse de Clastres, Clastres renverse littéralement Lévi-Strauss et il nous dit que l'échange est un effet de la guerre et un moyen pour elle. Plus précisément, l'échange, c'est un effet de l'alliance. La guerre appelle l'alliance. Et celle-ci est une conséquence de la lutte contre les ennemis, conséquence du fait qu'une communauté a des ennemis. C'est la figure de l'ennemi, nous dit Clastres, qui engendre celle de l'allié. Et donc c'est en faisant des alliés, de préférence des beaux-pères, des beaux-frères, etc., que l'on prévient le mieux possible le jeu des trahisons. Donc on peut dire la guerre, c'est à la fois ce qui permet de tenir la distance, la dispersion des communautés, et ce qui permet de tenir le rapport avec des alliés ou le rapport avec des ennemis aussi. Autrement dit, la guerre est ce qui permet de soutenir la logique des sociétés primitives en tant que c'est une logique de la différence. C'est une logique de la différence. Alors, ce qui est curieux ici, c'est que le concept de différence, bon, il était très circulant dans les années 70, mais vous voyez, avec l'idée d'une communauté qui est finalement une totalité une et indivise, il n'y a pas l'idée de différence à soi, qui est centrale dans la pensée dite de la différence des années 70. La communauté, elle n'est pas pensée dans une, elle est pensée dans une sorte d'identité à soi et d'altérité à l'autre. On est dans un schéma comme classique qui était précisément celui que la philosophie de la différence, que la désignation soit bonne ou pas, ça c'est une autre question, hein, et que la, ce qu'on appelle la philosophie de la différence voulait justement remettre en question. C'est-à-dire que l'essentiel, c'était d'abord la différence à soi. Bon, en tout cas, l'usage politique de l'anthropologie vise bien ici, en éliminant les approches ethnologiques rivales, à faire des communautés primitives le paradigme des sociétés libres et égalitaires. Et si elles peuvent constituer un tel paradigme, c'est parce qu'elles ont en leur cœur la disposition guerrière. On est tout à l'opposé de... Bon. Parce que entre les communautés, ces communautés, l'état de guerre est et doit rester permanent. Et c'est grâce à cette permanence que chaque communauté peut se vivre comme un, écrit Clastre, un nous indivisé et autonome. Je voulais juste un petit passage. La guerre est au cœur même de l'être social primitif. C'est elle qui constitue le véritable moteur de la vie sociale. Pour pouvoir se penser comme un nous, il faut que la communauté soit à la fois indivisée, une et indépendante, totalité. L'indivision interne et l'opposition externe se conjuguent, chacune est condition de l'autre. Que cesse la guerre et cesse alors de battre le cœur de la société primitive. La guerre est son fondement, la vie même de son être, elle est son but. La société primitive est société pour la guerre, elle est par essence guerrière. Donc, pour condenser un peu, on pourrait dire que la logique de la différence est une logique du multiple et même une logique de multiplication du multiple. Ce qui veut dire que la société primitive est une logique de la conjuration de l'un. C'est ce qu'on connaît le plus souvent de classe, hein, c'est une conjuration de l'un. Elle s'oppose, cette logique de la différence, elle s'oppose à l'extériorité de la loi unificatrice dont le garant est l'État. L'État, en tant que garantie de l'un, est la garantie de la transcendance de l'un au regard du multiple. Et la division, ici, n'est pensée que comme ce qui procède de la transcendance de l'un, c'est-à-dire de la domination par l'État. C'est l'État qui divise. C'est, encore une fois, ça veut dire qu'il n'y a pas de concept positif de la division, ni, de la division, comme on peut le trouver chez Rancière, hein, avec l'idée que la toute communauté est divisée, que finalement, on peut la concevoir à partir du travail de sa propre division, mais il n'y a pas de concept positif non plus ici de la division politique, qui est justement quelque chose que, bon, comme le titre de notre séminaire l'indique, on va essayer de chercher. Ici, c'est le multiple, la multiplication du multiple, qui permet de prévenir, d'empêcher l'apparition de l'un séparé. Et c'est la guerre qui est l'opérateur de la multiplication du multiple. La guerre, ou la machine de guerre, contre l'appareil de capture, la multiplication du multiple contre l'un transcendant, on retrouve ici donc les bases d'un schéma bien connu que Deleuze-Guattari vont reprendre dans Mille plateaux. Donc cette opposition machine de guerre à appareil d'État, appareil de capture, ce n'est pas, ça ne doit surtout pas être pensé comme une division, c'est ce qui permet tout d'abord de se soustraire aux divisions molaires, justement, auquel il fallait échapper, aussi en polémique avec le marxisme notamment. Donc voilà pour Clastres. Là, on est dans le paradigme de la guerre, tel qu'il a été, il a pu être prolongé d'une certaine façon par Deleuze Guattari, et tel qu'il a pu être développé dans bien des textes ultérieurs.